France Culture.
Patrice Lecomte, bonsoir.
Bonsoir.
Tandem sur pellicule. Troisième épisode de notre voix nue. Aujourd'hui, nous allons revenir sur vos années entre 1987 et 2000. Année très créative qui vous place comme un auteur reconnu et à part entière avec des œuvres comme Tandem, Monsieur Hir, Le mari de la coiffeuse, Ridicule, Tango, Le parfum d'Yvonne, La fille sur le pont, La veuve de Saint-Pierre. Vous ne vous laissez pas enfermer dans un rôle de faiseur de comédie efficace, à succès. Après Les spécialistes en 85, avec Bernard Giraudot et Gérard Lanvin, qui prouvent que vous savez mener un film d'action de bout en bout, vous vous lancez dans un projet très différent, un plus intimiste, et c'est Tandem avec Jean Rochefort, en animateur de jeux radio à bout de course, et Gérard Jugnot, son assistant ingénieur du son. Il vous apporte une vraie reconnaissance de la profession. Avec ce film et les suivants, vous arrivez à évoluer, on pourrait dire aujourd'hui, sortir des stéréotypes de genre, genre cinématographique pour le coup. Vos producteurs vous ont-ils suivi facilement? Est-ce qu'il a fallu vous imposer?
Tandem n'a pas été facile à monter parce que, comme Les spécialistes, film d'action, d'aventure, a été vraiment un succès très, très important. Enfin, je dis pas ça pour me la péter, mais c'était un succès. Après, on m'a dit, ce serait, vous êtes maintenant crédible pour faire des films d'action, d'aventure, continuez dans cette veine-là. Et je me voyais, après avoir eu une période de comédie, je me dis alors maintenant je vais faire des films d'action et d'aventure, et ça me chiffonnait un peu parce que j'avais au fond de mon crâne des trucs à raconter. Enfin, j'avais envie de raconter des trucs différents, et d'autant que Tandem, quand j'ai écrit la première version de Tandem, c'était il y a super longtemps, parce que c'était en 81, je me souviens très bien. C'était le soir, j'attendais les premiers chiffres, les chiffres du premier jour de Viens chez moi. J'habite chez une copine et j'étais en train d'écrire la première version de Tandem. Ça s'appelait Chers amis, bonjour à l'époque, et c'est devenu Tandem. J'avais ça dans un coin de mon crâne, cette envie-là, et je me suis dit... après un tel succès, celui des spécialistes, je peux me payer le petit culot, j'ai bien le droit de faire un petit film, un petit budget, une petite équipe et tout ça, faire Tandem. Et en fait, ça a été très dur à faire, très difficile à faire, pas de tourner le film, non, ça c'était une merveille, mais de monter l'affaire, parce que personne voulait mettre un sou dans ce film. Pourtant, c'était pas un film cher, mais on me disait, pourquoi vous voulez faire ça? Je dis, parce que j'ai envie, on y est arrivé. Il y a un type qui a été très important. Christian Fechner me dit, non, c'est un film, c'est parfait, Patrick, j'adore travailler avec vous, mais c'est un film qui est trop près de ma vie, de ma carrière. Enfin bon, ça le mettait un peu mal à l'aise, quoi. Il m'a dit, faut pas m'en vouloir, on fera d'autres films, mais je vais pas faire celui-là. Et Philippe Carcassonne, qui était un journaliste de cinéma et qui voulait devenir producteur, m'avait toujours dit, moi, le premier film que je Tandem, j'adore ça, on va le faire. Et il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas à trouver le financement. Et c'était presque moi qui lui disais, écoute, essaye de faire autre chose, parce que ta carrière de producteur, elle va mal démarrer si tu veux faire absolument ce film que personne n'en veut. Et puis Hachette Première, René Kletman, dit non, moi j'y crois. Ça a fini par se faire. Mais on a tourné le film d'une manière très, très... très sereine, avec une toute petite équipe, pas de lumière, c'était un petit budget, et puis ça a été le film que ça a été.
Est-ce que finalement, à travers ce film et les suivants, dans cette période-là, vous n'avez pas envie finalement de casser les codes, d'éviter une certaine routine où vous avez classé faiseur de comédie?
Si vous voulez, j'ai voulu profiter de ma liberté d'inspiration, non pas pour faire mon intéressant, du genre, et maintenant, je vais vous faire tout à fait autre chose, vous allez voir, etc. Non, mais c'est simplement parce que... Enfin, c'est très simple. Quand on est spectateur, on va pas voir qu'un seul type de film. On va voir des tas de films très différents les uns des autres. Et pourquoi est-ce qu'un réalisateur n'aurait pas cette liberté-là de faire des tas de films très différents les uns des autres, assez différents? Moi, sincèrement, avec tous les films que j'ai pu faire... Si on fait un test à l'aveugle et que des gens entrent dans un cinéma, c'est impossible s'il n'y a pas le générique, D'où le test à l'aveugle. C'est impossible de dire ça, c'est un film de Lecomte. Mais je m'en fiche. Le tout, c'est pas de faire des films qui soient reconnus comme étant les mêmes films d'un cinéaste. Ce qui est important, c'est d'essayer de faire des bons films qui plaisent aux gens.
Vous avez dit le cinéma est merveilleux pour organiser des rencontres improbables.
Oui.
C'est de là que ça part, des personnages d'une situation et non pas d'un bon sujet.
Oui, moi je parle pour moi, hein. Chacun voit midi à sa porte, mais je ne crois pas du tout à la notion de sujet. Tiens, il y a un bon sujet en ce moment, ce serait tel truc ou tel machin, etc. Et j'y crois pas, moi. Enfin, j'y crois, ça m'inspire pas. Ce qui m'inspire, c'est les gens, les personnages, les rencontres, en effet. Un jour, il y a déjà quelques années, un jeune homme qui faisait un bac option cinéma ou je sais plus exactement quoi. Enfin, bref, il faisait un petit mémoire sur mon travail, mes films, parce que ça l'intéressait. Et il m'avait dit, est-ce que vous faites des films très différents, monsieur Lecomte? Je dis oui, en effet. Est-ce que vous savez quel est le... Il avait trouvé plusieurs points communs à tous mes films, enfin, ou à 87% de... Enfin, il y a forcément des exceptions. Et il m'avait dit, et c'est ce que j'avais retenu surtout, que mes films étaient... pour la plupart, une histoire de rencontre. C'est-à-dire des gens qui, avant le film, ne se connaissent pas et se rencontrent sous nos yeux. Et il y a des films, on peut arriver en cours de route, raconter l'histoire d'un couple qui a déjà 30 ans de mariage, etc. Mais moi, non. Les gens, ils font connaissance sous nos yeux et on voit ce que ça donne. Et il avait raison. Quand il m'a dit ça, j'ai passé en revue à toute berzingue ma filmographie. Et je me dis, bah oui, là, c'est des gens qui se rencontrent, là, c'est des gens qui se rencontrent. C'est vrai, le mari de la coiffeuse, c'est les gens qui se rencontrent, Monsieur Hir. Alors, on peut trouver un contre-exemple parce que Tandem, le duo, le tandem,
ils se connaissent,
Jean Rochefort et son assistant Junio, ils se connaissent depuis longtemps. Donc, ce que m'avait dit ce jeune homme était vrai, mais pas pour tous les films.
Et puis, pas mal de vos films se déroulent dans un univers un peu hors du temps aussi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, il m'avait fait remarquer ça aussi, que la plupart de mes films se passent dans un univers à part. C'est vrai que la cour de Versailles, c'est un univers à part. Le bureau du psy, enfin, qui est un expert comptable, c'est un univers à part. Le club Méditerranée, c'est un univers à part, etc., etc. C'est vrai.
Est-ce que vous aviez, à ce moment-là, le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire la peur de découvrir que finalement vos films, vos réussites ne soient que le fruit du hasard et pas de votre talent
ou
de
compétence ? Non, là, quand j'ai fait ce livre qui s'appelle « Je suis un imposteur », qui raconte un peu mes rencontres, la vie, l'itinéraire et tout ça, c'était un titre un peu pour accrocher, quoi. Non, j'ai pas l'impression d'être un imposteur parce que je travaille beaucoup. Mais vraiment beaucoup, et que je fais rien par sous la jambe, je m'investis de manière folle, enfin dans mes films, je laisse rien au hasard, etc. Donc là-dessus, je suis pas un imposteur. Donc le terme il est pas juste, mais bon, c'est pour faire un titre de bouquin. Et ce qui est vrai, c'est que de temps en temps, j'ai l'impression d'avoir trop de chance. J'ai l'impression d'avoir eu trop de chance. Des choses qui se goupillent bien, comme on a en tête, et qui ça donne des films, et que ces films sont pas trop mal, et qu'on reconnaît que ces films sont importants, que des choses très jolies s'écrivent sur ces films. Tout ça me semble non pas disproportionné, mais parfois je me dis, mais est-ce que j'ai mérité tout ça? Est-ce que le talent que je sais pas, j'ai l'impression d'être. C'est ce que je vous disais. Hier ou avant-hier, je sais plus, quand je vous disais que de voir un très très bon film, ça me ratatine de modestie parce que je me dis, mais j'arrive pas à la demi-cheville du cinéaste qui a fait ça. Donc c'est pas du tout le fameux fishing for compliments. C'est simplement, je me dis, mais là, ce film-là que je vois, qui est un film formidable, là, le mec qui a fait ça, il a un talent de dingue. C'est formidable de faire ça. Et moi, je ne me minimise pas. Mais quand on me dit à quel point mes films sont... Je ne sais pas comment dire, je parle de moi, c'est affreux.
Je suis...
C'est pas que ça m'embarrasse, ça me fait vachement plaisir. Mais j'ai du mal à y croire.
Et en même temps, vous tenez vos engagements. Je crois que vous dites souvent, sous forme de boutade, je n'ai aucun suicide de producteur. Ça veut dire...
Oui, mais enfin, vous savez, les réalisateurs qui, par leur film, ont entraîné le suicide d'un producteur, ils sont pas très nombreux non plus, donc c'est facile de se mettre dans ce club-là. Je fais partie du club des réalisateurs qui n'a jamais poussé un producteur à suicider, non. Non, c'était une boutade un peu navrante. On oublie.
La réussite d'un film, est-ce que j'imagine qu'en tant que créateur, vous avez réfléchi à ça. Qu'est-ce qui fait le succès d'un de vos films ou pas? Est-ce que c'est une alchimie complexe?
C'est mystérieux. Ouais. Moi, je n'ai pas beaucoup de certitudes. Je n'ai pas que des doutes non plus. Mais j'ai au moins une certitude, c'est que je n'ai jamais imaginé un film en me disant « ça va plaire ». Non. Encore une fois, il faut que ça me plaise à moi. C'est une question de sincérité. Il faut que ça me plaise à moi. C'est pas un truc d'égoïsme. Hein. C'est juste si ça me plaît à moi. Et par rapport à l'alchimie étrange, fragile du succès ou de l'insuccès d'un film, il y a plusieurs trucs qui sont quand même assez singuliers. Je suis pas loin de penser que quelque part dans les nuages, à l'encre sympathique, une écriture invisible, le « ça va marcher » ou « ça ne va pas marcher », c'est déjà prévu avant que vous ayez tourné un mètre de pellicule, même si on n'est plus sur pellicule aujourd'hui. C'est-à-dire que le destin d'un film, il est là à la première page, à la première... C'est écrit quelque part, mais on n'a pas accès à ça. Sinon, on tournerait que les films pour lesquels, dans les nuages, c'est marqué « ça va marcher ». Donc, le succès est imprévisible. Bon, l'insuccès aussi, bien sûr. Et puis, un jour, Christian Fechner, encore lui, mais on se lasse. Moi, je me lasserai jamais de parler de cet homme-là. Christian Fechner m'avait dit, je sais plus après quel film qui n'avait pas très bien marché. Je me souviens, enfin, peu importe. Il m'avait dit, si on note les raisons pour lesquelles un film n'a pas marché, on fait la liste. Ça n'a pas marché parce que ceci, parce que cela, parce que ceci et cela. Eh bien, si le film avait marché, on pourrait évoquer les mêmes raisons. Et il a raison. Vraiment. Ce film n'a pas marché parce qu'il est trop différent, trop singulier, trop à part. Ce film a marché parce qu'il est très singulier, très différent, très à part. Les mêmes raisons. C'est un exemple basique, mais on peut continuer la liste comme ça, vraiment.
En tout cas, il y a un film qui a bien marché dans cette période-là. C'est Ridicule. C'est sur un scénario de Rémy Waterhouse, qui a connu un parcours assez incroyable, puisqu'il a été nommé 9 fois au César, si je dis une bêtise, décrochant 4 statuettes, dont la mise en scène est le meilleur film. Il a été nommé aussi aux Oscars comme meilleur film étranger. Est-ce que vous vous rappelez de cette démesure, c'était aux alentours de 97, parce que vous avez été invité à la cérémonie de Los Angeles pour les Oscars, donc? Et là, je crois que c'était assez incroyable.
Bah, c'est-à-dire que c'est assez américain, quoi. C'est les Césars en plus américains, je ne peux pas mieux vous dire. C'est assez formidable de se retrouver là. Alors j'avais évidemment préparé un petit compliment bidonnant, enfin plaisant, très charmant, que j'avais répété en anglais, évidemment, avec un accent français qui aurait été absolument délicieux. Les Américains adorent ça. J'aurais pas eu besoin de me forcer, mais bon. Et dans la cérémonie, qui est vachement longue, on se plaint que la cérémonie des Césars soit très longue, n'en finisse pas. Mais alors, les Oscars, vous verriez ça. Et aux Oscars, le meilleur film étranger, ça arrive vers la fin. Donc on a bien le temps de s'ennuyer, on a bien le temps d'aller aux toilettes, on a bien le temps d'avoir le cœur qui menace d'exploser. Plus on se rapproche en disant oh, « bientôt ça va être à moi peut-être, espérons que... » Et puis non, ça a été un autre film. Quand l'enveloppe s'est ouverte, c'était un film yougoslave qui s'appelle Kolia, que j'ai surtout pas vu et que j'ai pas envie de voir parce que ça m'énerve.
Vous avez été aussi en sélection officielle à Cannes avec Monsieur Hir. Ça, c'était en 89. Est-ce qu'après ça, ça vous a ouvert
de nouvelles portes? Oui, oui. Dans l'ordre, évidemment, c'était Monsieur Hir qui était le premier film. J'ai eu 2 films sélectionnés à Cannes en compétition. Il y a eu Monsieur Hir et quelques années plus tard, il y a eu Ridicule. Okay. Et Monsieur Hir, ça a vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Le festival de Cannes C'est des projecteurs qui sont braqués sur votre film, pas sur votre personne, mais sur votre film. Et c'est à partir de Monsieur Hir, donc à partir du Festival de Cannes qui a sélectionné Monsieur Hir, que mon travail, mes films, donc, ont été connus à l'étranger. Avant, les films que j'avais fait avant, aucun n'était sorti en dehors des pays francophones, Belgique, Suisse, mais même pas le Canada, je suis même pas sûr. Et puis à partir de Monsieur Hir, oui, ça a été Monsieur Hir a été sélectionné pour les Golden Globes et, aux États-Unis. Enfin bon, il y a eu des tas de choses. Et puis il y a eu surtout un marché étranger au Japon notamment. Les Japonais ont trouvé que, enfin les Japonais, ça veut rien dire. Les Japonais ont trouvé que Monsieur Hir était un film très japonais. Bon, moi je veux bien, si vous voulez.
Oui, sans doute.
J'aimerais. Ils ont sûrement raison.
J'aimerais qu'on creuse l'étape de l'écriture du scénario. Lorsqu'on analyse votre filmographie, vous avez travaillé au niveau du scénario en solo, hein, des films que vous avez écrits seuls, comme Tango, Le Parfum d'Yvonne, Voire la mer. Mais vous avez le plus souvent travaillé avec des co-scénaristes. Et je vais en citer quelques-uns parce que souvent on oublie de les citer. Il y a bien sûr Michel Blanc, mais Patrick De Wolf, Serge Friedman, Claude Klotz, Claude Faraldo, Rémy Waterhouse. Ridicule. Et Jérôme Tonnerre. Comment se passe la collaboration avec un co-scénariste?
C'est très agréable. Moi, j'aime bien écrire tout seul, mais je préfère vraiment, à partir du moment où on a trouvé son alter ego, quitte à changer d'alter ego pour un autre projet. Enfin bref, j'adore écrire à deux. Vraiment. Vraiment, mais parce que... Déjà, parce que vous pouvez pas remettre à plus tard. Moi, je déteste dire « Oh, je m'y mettrai demain. Tiens, je vais aller voir un film. » Donc ce fameux verbe affreux « procrastiner », c'est un verbe... Déjà, le verbe est dégueulasse à entendre, et c'est en plus un verbe que je n'applique pas dans mon quotidien. Mais malgré tout, quand on est tout seul, on peut très bien se dire « Tiens, je vais aller en bas, je sais pas, faire un tour du pâté de maison, je sais pas quoi ». En revanche, quand on travaille à deux, ça c'est déjà vachement important, on sait qu'on se voit à 13h30 et qu'on va s'arrêter de travailler à 18h. Alors même si on glandouille un peu pendant ce temps-là, au moins on est à deux, on échange des idées, on peut pas être là simplement pour dire « il fait beau, n'est-ce pas ?». Donc on est en train d'écrire un film. Et au lieu d'être tout seul à être comme la mouche qui bute sur la fenêtre comme ça, alors que la fenêtre d'à côté est ouverte, au lieu d'être tout seul pour essayer de trouver la solution à une scène qui se goupille mal ou je sais pas quoi, on est deux.
Vous essayez de vous surprendre mutuellement
ou... Oui, c'est moins décourageant d'être deux, franchement. Parce que c'est... On peut écrire n'importe quoi, hein, mais si on essaye, c'est mieux quand même. Si on essaye de pas écrire n'importe quoi, si on se pose des questions, ça prend du temps, on a des doutes, on sait pas trop. Moi, je me souviens d'avoir écrit... quand on travaille avec Jérôme Tonnerre, qui est, je pense, le co-scénariste avec lequel j'ai fait le plus de films, on se voit là, ici, dans ce bureau, il vient jusque-là, et on se parle à bâton rompu, il prend beaucoup, beaucoup de notes. Et puis il y a l'un de nous deux, c'est souvent lui, le premier qui s'y colle pour faire une première version. Et il m'envoie la première version. Et je reviens dessus dans une autre couleur. Je lui renvoie. Et il me renvoie avec une troisième couleur, etc. Donc on finit par avoir une espèce de... On appelle ça entre nous... je crois que le perroquet est assez coloré. Donc c'est un perroquet parce que c'est vraiment multicolore. Et on fait le tri entre ce qu'on a rajouté, pas rajouté, et puis ça finit par faire un scénario, quoi. Mais...
Et est-ce qu'en tant que réalisateur, vous pouvez plus facilement dire à votre co-scénariste, ah ben là, ce que tu as imaginé, non, c'est pas possible, s'ennuyer, techniquement.
Non, non, mais c'est un travail en commun. Mais à l'arrivée, il faudra quand même que ce soit mon film. C'est-à-dire qu'il faut que je me retrouve dans ce qu'on a inventé à deux. Et si un co-scénariste me propose un truc qui ne me va pas, qui ne me convient pas, qui ne me semble pas correspondre à ce que j'ai en tête, ou qui ne correspond pas, je lui dis non, ça ne va pas, c'est pas comme ça qu'on va faire, on va plutôt faire ça. Donc non. Jérôme Tonnerre, il est vraiment formidable parce qu'il est très... à géométrie variable, très souple, c'est-à-dire qu'il il aime se fondre dans l'univers, la personnalité. Voilà. Mmh. Serge Friedman, qui a un talent fou également, surtout comme dialoguiste, il est plus rétif, quoi. C'est plus compliqué de l'amener là où on veut aller, parce qu'il est plus entêté. Mais ça retire rien à son talent, et on a écrit ensemble, et il a dialogué superbement La fille sur le pont, par exemple. Il n'y a rien à dire, quoi. Peu importe. Il n'y a que le résultat qui compte.
Et quand une scène vous résiste, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous allez vous partez, vous baladez, vous insistez ?
Non, il faut pas. Vous savez, c'est exactement comme quand on a un trou de mémoire à propos d'un nom. Tu te souviens comment il s'appelait ce type mais si, il est dans tel film, et vous ne trouvez pas. Plus vous vous ingéniez, vous acharnez à essayer de trouver, moins vous trouvez. Donc vous allez faire non pas le tour du pâté de maison, mais vous faites autre chose, et 5 minutes après vous dites ah, Bernard Langlois, bien sûr Bernard Langlois, et vous trouvez parce que vous arrêtez de chercher. Eh ben, sur une scène qui résiste, c'est pareil. Si vous vous prenez de chou devant la page plus ou moins blanche, devant le clavier immobile, en vous disant comment est-ce que je peux sortir, non ça va pas, s'il passe par le couloir, si vous prenez de chou, on n'y arrive pas. Enfin moi j'y arrive pas.
Vous prenez votre vélo, je crois.
Alors, et puis, si je suis à la campagne, si vous êtes à la campagne, vélo et je vais faire des tonnes de kilomètres.
Parfois, ça vous trouvez des idées
ah,
en
oui,
pédalant.
Ça c'est le vélo, c'est un accélérateur à imagination incroyable. Incroyable. Vraiment. Alors que si vous bullez au soleil, à la campagne, vous ne trouvez rien. Vous vous liquéfiez.
Et par contre, quand vous trouvez une idée géniale, ou que vous estimez, je pense que ça doit être jubilatoire.
Oui, alors ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne trouve jamais l'idée géniale. Mais.
En tout cas, qui résout le problème.
Mais il y a des idées qui vous tombent dessus et dont on dit ah, je suis content d'avoir eu cette idée. Exemple, quand on a écrit Maigret avec Jérôme Tonnerre, on était un peu, je dois dire, embarrassé par la panoplie de Maigret. Le manteau, le chapeau et la pipe. Et on a tous ce souvenir de Bruno Kremer, ou bon, Bruno Kremer c'était bien, mais Jean-Richard c'était moins bien. Bref, on a tous ce souvenir d'un commissaire qui tire sur sa pipe. Bon, où est-ce que vous étiez mardi soir, 18h? Et ça, on s'est dit, ah putain, non, c'est trop cliché, c'est pas bien. Et c'est Jérôme Tonnerre qui a eu l'idée que le docteur Paul, à la première séquence, lui dit, vous allez bien, Maigret, mais il faudra arrêter le tabac. Et quand on a eu, c'est Jérôme Tonnerre qui a eu cette idée-là, quand il a eu cette idée-là, moi j'ai été collé au plafond de bonheur, je me suis dit, ben voilà, c'est tout simple. Il ne fume plus, donc il tripote une pipe vide de temps en temps pour s'occuper les mains, mais il n'a plus la pipe au bec. Et j'étais tellement content. Voilà, c'est un exemple un peu dérisoire, j'en conviens, mais pas tant que ça.
Donc finalement, quand vous créez des personnages, parce que dans vos films, souvent les personnages sont des personnages forts, comment vous les rendez intéressants ? C'est-à-dire que justement, vous allez à l'encontre des clichés, vous essayez d'être
non,
à rebours.
Non, je ne crois pas forcément.
Éviter la caricature.
Vous savez, la notion de contre-emploi, on va faire jouer à Lino Ventura un rôle d'antiquaire homosexuel. Je dis vraiment n'importe quoi, j'en suis désolé. C'est navrant. Je suis navré. Ça m'intéresse pas, ça, franchement. D'aller dans le sens du poil de l'acteur, c'est pas très intéressant non plus. De lui faire faire, de lui proposer à l'acteur de faire ce qu'il a déjà fait dans plein d'autres films, moi ça me chiffonne. J'ai fait beaucoup de films avec Jean Rochefort et j'ai eu l'impression qu'on a tout le temps ensemble fréquenté des sentiers originaux, différents. Quand j'ai proposé à Michel Blanc d'être Monsieur Hir, ça lui a fait peur parce que il m'a dit mais j'ai jamais fait ça. Et je dis ben moi non plus. Et c'est comme ça qu'on a fait un film qu'on n'avait jamais fait. Mais c'était pas pour faire notre malin, c'était parce qu'on avait envie de ne pas ronronner quoi.
Et Monsieur Hir est adapté de Simenon. On en a parlé un petit peu au premier épisode. Donc vous adaptez aussi assez souvent des livres.
Oui, c'est vrai.
Donc Simenon, Modiano pour Le Parfum d'Yvonne. Pourtant, ces écrivains, souvent, leur livre repose sur une atmosphère. Comment vous faites pour retranscrire cette atmosphère ? Peut-être même dans Maigret, en particulier.
C'est-à-dire que il faut se sentir très proche du livre. On ne peut en aucun cas tourner une adaptation avec le livre dans la main gauche et la caméra dans la main droite. Sinon, on est juste un illustrateur. Moi, j'ai besoin de, non pas de tirer la couverture à moi, mais j'ai besoin de me mêler à l'univers de, que l'auteur a exprimé. Et quand je lis des Simenon, je m'y sens bien parce que y a des choses qui entrent en résonance avec des choses personnelles, quoi. Et ça me convient. Modiano est pas facile à adapter, mais c'est au niveau du ressenti. Qu'est-ce qu'on ressent en lisant Modiano? Qu'est-ce que je ressens, moi? Et ça va forcément plus loin. C'est un exercice qu'on pourra jamais faire, mais c'est, si on donne le même livre à 10 cinéastes, s'ils ont un peu de personnalité, ça doit donner 10 films différents. Ah ben si, voilà. Monsieur Hir, de Georges Simenon, le bouquin s'appelle Les fiançailles de Monsieur Hir, a été adapté une première fois par un cinéaste que j'adore, qui est Julien Duvivier. Ça s'appelle Panique, avec Michel Simon, qui joue Monsieur Hir. Et Viviane Romance joue Alice, la fille qu'il observe, la fille que lui observe. Et donc, si on compare Panique de Julien Duvivier avec Monsieur Hir de moi-même, il y a des petits points communs forcément qui appartiennent au bouquin, mais c'est deux films extrêmement différents, très très différents. Et je pense que si d'autres cinéastes s'étaient amusés à adapter Les fiançailles de Monsieur Hir, ça aurait donné encore autre chose, d'autres choses.
Alors vous disiez tout à l'heure, livre, de ne pas mettre le livre dans une main, la caméra dans l'autre. Mais vous avez une autre particularité, Patrice Lecomte, c'est que vous êtes votre propre cadreur sur les tournages.
Ah oui, ça c'est important.
Qu'est-ce que ça change?
Alors c'est depuis... Avant, ça me brûlait l'envie, mais j'osais pas. Et puis j'ai sauté le pas sur Tandem parce que c'était un petit film, un petit budget, petite équipe, et je me dis là je peux me payer le petit culot de cadrer moi-même, et je me suis beaucoup appris sur les films publicitaires à cadrer moi-même, sur les conseils d'un producteur qui m'a dit tu devrais cadrer toi-même les pubs, tu gagnerais du temps, tu aurais exactement ce que tu as en tête, et moi ça me permet des tas de choses, quoi. J'ai pas besoin de décrire, de déléguer à quelqu'un les images qui me trottent en tête. J'ai besoin juste de les faire moi-même. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et je n'abandonnerai jamais cette fonction. Et puis aussi, ça induit une intimité formidable avec les acteurs. Quand les acteurs savent que le mec qui est derrière la caméra, c'est le mec qui est en train de faire le film, il n'y a pas d'intermédiaire à part la machine, la caméra derrière laquelle on se planque un peu, genre. Mais Il y a quelque chose de très très sensible, un peu. Il y a une forme de sensualité à filmer les acteurs.
Quand vous voulez les suivre au plus près.
Au plus près ou pas au plus près, mais enfin d'être avec.
Avec.
D'être vraiment avec, quoi. C'est pas parce qu'on cadre qu'on fait que des gros plans, bien sûr que non, mais. Mais les acteurs, enfin moi je l'ai ressenti comme ça. Moi, aucun acteur m'a jamais dit ah c'est toi qui cadre comme c'est bizarre. Non, les acteurs, franchement ils adorent ça, et je suis même étonné qu'il n'y ait pas davantage de cinéastes qui cadrent même leurs films. On est très très peu à faire ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas.
Et diriger les acteurs à travers le cadre, c'est peut-être plus naturel aussi.
Mais parce qu'après un plan qu'on a cadré, d'aller dire à l'oreille de l'acteur on veut un petit truc qui ne regarde personne, juste une connivence entre... j'abandonnerai jamais ça.
Eh bien, c'est très bien. Justement, ça sera l'objet de notre prochain épisode, Patrice Lecomte, le quatrième, où on approfondira le sujet de la direction d'acteur, mais aussi celui de votre rapport à la critique, le milieu du cinéma et votre expérience théâtrale. À demain.
Très bien, à demain.
C'était À Voix Nue, réalisation Laurent Polleré, prise de son Florent Layani, chargé de programme Daphné Abgral, une série d'entretiens proposée par Pierre Lorimi, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.